des curieuses et des curieux, des camarades, des complices et auditeurs de Radio Panique, bienvenue dans cette décassette d'avril où l'on découvrira le fil reliant Mégabassine et Pays dans le Pays, avant de retrouver en fin d'émission le décagenda concocté par Camille qui nous présentera les activités et événements à venir au DK 70B rue de Danemark à Saint-Gilles. Dans le courant de ce mois de mars, notre équipage mettait à l'eau le Zodiac de notre vaisseau amiral afin que les plus téméraires de nos membres, remontant fleuves et rivières, rejoignent Sainte-Soline et sa méga-bassine. C'est le compte-rendu de cette équipée, ainsi que de l'articulation entre la lutte qui s'est déroulée là-bas et la notion de bassin versant cher aux actrices des temps présents, que nous relate maintenant Paul en compagnie de Céline.
Et donc, Paul, dans le pays, il y a la question des bassins versants, évidemment, qui structure, qui dessine le pays. Et toi, à propos de bassins, tu es allé rendre visite, tu as vu ce qui se passait aux méga-bassines. Quel lien est-ce que tu fais entre ce que tu as vu et le projet politique du pays ?
Ah bah, le lien, il est direct, il est évident, il est central. Hein, donc, mais ce qui est intéressant dans la situation, je dirais, désastreuse... Donc, il crée du désastre qu'on a vu là sur place à Sainte-Soline et dans la région du Poitou et plus globalement dans la province française, comme on disait dans le temps. C'est effectivement la prolifération de ces méga bassines. Il faut imaginer un immense cratère qui serait creusé quelque part, qui peut avoir à peu près l'équivalent d'une dizaine de terrains de football, quoi, ou plus encore, et qui sont remplis d'une eau dont on disait auparavant qu'elle serait de l'eau de pluie, mais qui s'avère, vu la sécheresse permanente, être de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques ou dans les flux des ruisseaux et des rivières avoisinants. Et donc, on est là devant, typiquement, une application en direct, in vivo, de ce que c'est qu'un bassin versant. Si quelqu'un capte l'eau en haut, il n'y en a plus pour les gens en dessous. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre là. C'est une appropriation au profit de 45 agriculteurs du département, essentiellement des céréaliers, essentiellement des gens d'agriculture intensive, au mépris, au défi du reste de la population, qu'elle soit une population qui travaille dans l'agriculture ou qui soit simplement une population qui consomme de l'eau, qui va effectivement sur un RFI. Donc on est sur une concurrence et une compétition des usages de l'eau. Et nous, ça nous redonne évidemment tout à fait, je dirais, ça remet en lumière la perspective des bassins versants, que souvent encore les gens ont des difficultés à comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'on vient avec la question des bassins versants dans le pays, pourquoi est-ce qu'on part des bassins versants pour dessiner le pays dans le pays, mais précisément pour ça, parce que l'eau, le manifeste le disait déjà à l'époque, l'eau est parmi tous les communs naturels, les biens communs naturels, l'eau est sans doute le bien commun naturel qui est le plus susceptible d'apporter des situations belliqueuses, d'hostilité, de compétition. Là, c'est clair. C'est clair dans ce qu'on voit dans l'application des méga-bassines en France, c'est exactement ça. On le voit par ailleurs, hein, comment des multinationales de soda, par exemple, captent l'eau des villages et dans les pays du Sud, je parle alors, hein, et empêchent toute consommation locale de l'eau, et donc partant de là, toute vie locale. Donc l'eau, c'est la vie, hein, donc on est vraiment dans ce truisme-là, dans cette évidence-là, on le voit clairement, et cette compétition pour la vie, elle s'inscrit dans les bassins versants. Donc, cette vision politique de partir du bassin versant pour dessiner des solidarités locales et pour se dire effectivement qu'à la mesure et à l'imitation d'un bassin versant, ce qui vient du haut, s'il n'arrive pas en bas, s'il est cassé dans son développement, qu'une chance de que ça réussisse, et donc fluidifier cette relation-là dans le cours. rendre à ce cours des choses quelque chose de l'ordre de l'évidence, de la simplicité, de l'entraide, de la mutualisation, enfin ce genre de choses-là. Maintenant, ça commence à être lisible et visible dans des situations concrètes, quoi.
Et donc, les gens que tu as rencontrés là-bas et qui sont en lutte, en fait, autour de cette question de l'eau, est-ce qu'ils identifient ce lien au territoire qu'est le bassin versant? Donc, le bassin versant propose une autre manière de découper le territoire. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être plutôt dans une lutte autour de l'eau rapproche de cette géographie-là?
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire, là, la proposition du pays à partir des bassins versants, elle fait écho, évidemment. Elle fait écho parce qu'elle permet effectivement de se baser sur des initiatives locales déjà existantes ou préexistantes qui permettent de commencer à dessiner ce type de territoire que nous on appelle des pays, qu'on peut appeler aussi des syndicats de territoire ou des choses. Enfin, ça dépend, peu importe la dénomination qu'on lui donne, à partir du moment où de fait on n'est pas dans quelque chose qui serait trop grand. Et c'est le découpage de cette géographie-là, donc de travailler sur une géographie qui aille avec une démographie suffisamment réduite pour permettre l'exercice d'un autogouvernement véritable, donc quelque chose qui effectivement puisse être dans l'horizontalité et éviter cette verticalité précisément du bas en haut dont on parlait tout à l'heure, ça suppose que ce sont des petits territoires. Alors là, on sait bien que les territoires français, les communes françaises, souvent, ce n'est pas grand-chose. Donc, de fait, il va y avoir un travail de cartographie à faire en commun. Donc, il y aura des choses qui vont être tout à fait intéressantes à travailler ensemble. Donc, oui, cette proposition des bassins versants, elle est là. Donc, il parle aussi d'essayer de faire une internationale des bassins versants, ce genre de choses-là. C'est de rendre les luttes les plus collectives possibles, ce qui est évidemment aussi une bonne idée, mais qui ne peut pas aller sans une construction locale forte. Mmh. Si on est simplement sur de la proposition de mise en relation et en réseau d'initiatives militantes ou associatives, on n'est pas là encore dans le cœur du sujet dans lequel on doit être maintenant. Il faut vraiment avec la situation d'aujourd'hui et parce que la compétition de l'eau et parce que les usages sont conflictuels, il faut qu'on aille effectivement vers des résistances locales de plus en plus fortes. Il faut qu'on comprenne bien qu'on est là avec un produit de première nécessité pour tout le monde.
Le manifeste parle beaucoup de commun. Est-ce que ça parle aussi? Est-ce que quand tu as évoqué le pays dans le pays, les bassins versants, la notion de commun et son lien avec l'eau. Je te laisse un peu développer si l'eau est un commun.
Moi, ma vision de ça, c'est que l'eau est un bien commun, mais que pour autant, c'est pas un commun. Ce qui est un commun est quelque chose qui est autogouverné précisément. L'eau, dans son flux, elle n'est pas gouvernée comme telle. Mais en revanche, elle permet, en dessinant précisément le territoire, de créer un espace qui, lui, peut être autogouverné comme un commun. Donc, quelque part, elle permet, c'est ce dessin-là, en fait, c'est cette construction-là que le bassin versant permet. Il donne l'autorisation, quelque part, de voir une autre géographie politique. Et cette géographie politique, elle est basée sur le commun. Donc, ça, c'est pour répondre à la dernière partie de ta question. Alors, est-ce que c'est déjà présent? J'ai l'impression que c'est encore un chouïa trop tôt, parce que la lutte est tellement, je dirais, frontale, tellement violente aussi. Donc on est là quand même devant aussi, ça permet de vérifier que la question du bassin versant, elle est hautement politique. Je veux dire, là, c'est vrai que ce qui s'est passé à Sainte-Soline le week-end du 26 mars, on a vu à quel point la violence d'un État pouvait s'exercer véritablement d'une manière perverse, d'une manière mensongère, d'une manière, je dirais, absolument désinhibée. C'était assez... J'ai pas d'exemple récent de choses qui soient passées comme ça, c'est-à-dire de façon aussi brutalement barbare volontairement. Comment faire mal, comment faire souffrir, voire comment torturer. Je dis bien torturer, parce que lorsqu'on gaze des blessés, on est en train de torturer quelqu'un. Cette méchanceté-là, du haut vers le bas, C'est exactement ça, le niveau de résistance qu'on doit apprendre à... C'est là qu'on doit l'arrêter. Et le niveau de résistance que nous, on peut proposer dans les pays, c'est ça, en fait. C'est l'organisation dans de petits territoires, mais qui rendent les gens solidaires et soucieux les uns des autres, parce que c'est quand même beaucoup ça qui manque, hein. Je veux dire, on n'est pas dans ce souci de l'autre et la réduction du territoire, sa petitesse permet précisément d'appréhender plus la question de que fait mon voisin, de quoi a-t-il besoin. C'est important.
Il détourne la rivière, là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler. Assez, gringo, nos terres sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, détruire nos foyers, si beau, si beau. Tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville, tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Polo, 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 de l'eau, de l'eau.
Quand je t'entends avec ce qui s'est passé là-bas, ça fait évidemment écho au manifeste et à cette question d'installer une nouvelle légitimité face aux légalités existantes. Et là, c'est illégal, en fait. C'est une espèce de... C'est une légitimité. C'est en tout cas un des pouvoirs qui est légitimé aujourd'hui dans l'autre pays, pas dans le nôtre. Et il a recours à des choses illégales pour maintenir.
Complètement. Déjà, il assied une espèce de certitude sur des choses qui ne le sont pas. Dire, les procédures judiciaires sont toujours en cours. Hein. Les juridiques, je veux dire, sont toujours en cours pour oui ou non, Sébastien, ont-elles le statut que l'État voudrait leur donner. C'est pas aussi clair que ça. De toute façon, les procédures ne sont pas terminées, donc on ne peut pas dire qu'il s'agit là, comme a dit le ministre de l'Intérieur d'établissement public. C'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est en tout cas, c'est au moins de l'élision d'une certaine partie de la réalité. Et oui, on a effectivement affaire à une légalité qui pratique l'illégalité pour se défendre. Je disais à Sainte-Soline qu'on était passé de l'état de droit au droit de l'État, parce que c'est vraiment ça. Le droit de l'État prime sur l'état de droit aujourd'hui. Là, on l'a vu clairement. On a vu ça d'une manière très pesante, très prégnante, très forte, très blessante, parce que ça blesse, parce que ça fait mal, parce que ça peut tuer, parce que ça tue. Et donc là, il y a effectivement des méthodes et des modes d'organisation qu'on doit trouver d'urgence. Mmh. Ce que cette visite, je dirais, m'apporte à moi, c'est ça, c'est ce sentiment qu'on n'a pas le temps de se préparer encore pour longtemps, quoi. Il faudrait qu'on soit là dans un état où on puisse passer effectivement à l'organisation concrète et efficace de ce qu'on pense.
Oui, c'est ce que je ressens, en fait. Parce que c'est une belle idée que de vouloir installer une légitimité à côté, devant la légalité existante, mais là, une légitimité face à cette violence-là, juste la légitimité d'une collectivité qui crée des communs, qui crée des assemblées autogouvernées, est-ce qu'elle a encore le moindre poids ? Vers quoi faudrait-il aller, alors ?
Elle ne peut que gagner, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Elle ne peut que gagner parce que devant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une espèce de vieux monde en déliquescence qui est en train de s'agiter. On dépense une énergie, un pognon fou, comme dirait le président français, un pognon dingue pour maintenir des systèmes qui tiennent plus. Et ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. À un moment donné, ça ne va pas le faire. Ne serait-ce que localement, déjà dans ces communes et dans ces villages, on s'auto-organise. Déjà, on a une mobilité partagée, etc., parce que ça ne peut plus aller comme ça allait, parce que les transports publics sont moins fréquents, etc., etc., parce qu'il y a moins de magasins, parce qu'il y a moins ceci, etc., donc que les besoins premiers sont déjà beaucoup moins remplis. On voit ce qui se passe avec le côté de la santé, les fermetures des hôpitaux, enfin bon, c'est tout à l'avenant. Donc il y a vraiment un paysage qui est en train de disparaître aussi, si on le laisse faire. Donc, en fait, les gens sont là. C'est avec les gens qu'il faut bosser, hein. Dire les structures, elles sont déjà en train de disparaître, hein.
C'est ça. Et là, cette espèce de légitimité apparaît. Elle est en filigrane, en fait.
Elle est totalement en filigrane. Elle est là, quoi. Mais on la sent, hein, parce qu'elle s'exerce. Le lendemain de cette manifestation et de ces événements brutaux, il y avait les assemblées dans le village d'à côté de Sainte-Soline, à Mel, qui est une petite commune du Poitou, qui est, on va dire, la base arrière, le refuge, une commune accueillante. Comme une hospitalière, comme on dirait ici, et qui a pris son parti. Donc le maire a décidé que la commune était anti-méga-vaccine, hein, et a donc donné un certain nombre de facilités pour que les manifestants puissent organiser là le festival de l'eau. Et déjà là, le monde était déjà différent le lendemain. Et c'était visible à quel point, effectivement, BFM TV aurait eu du mal à trouver un regard de jeune anarchiste assoiffé de violence, comme il le disait, hein. Ça aurait été très complexe de le chercher, de le trouver. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc, et l'auto-organisation, elle est directe, alors. Toute cette journée du dimanche a été à la fois d'une intelligence de discussion, d'un respect du débat. J'ai fait deux assemblées générales avec 600 personnes chaque fois. Personne s'est marché sur les pieds ou a pris la parole de l'autre, hein. Donc, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et les pratiques à l'extérieur, sur la nourriture, enfin ça, c'est érodé. On est déjà dans quelque chose qui, effectivement, est une pratique. On n'est pas dans le côté de la volonté de faire, on est déjà dans la pratique. Donc, si on pouvait se préparer de manière encore plus concrète, encore plus efficace, hein, encore plus directe, on perdrait moins de temps. Donc voilà, parce que je l'ai dit aussi à ce moment-là, le problème que nous avons et que nous rencontrons, c'est que nous savons que nous allons gagner. Mais comme d'habitude, nous allons gagner trop tard. Nous allons gagner une fois que les bassines seront construites et qu'elles seront utilisées. Elles seront interdites parce qu'elles seront illégales. On vit ça dans toutes les luttes de territoire. Il faut qu'on apprenne à gagner plus tôt.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les jeunes oiseaux chantent avec la lumière. Et moi, je fais... des mécaniques, des instruments confidentiels, des réacteurs astronautiques, on va coloniser le ciel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais sur la comète, on inventorie le ciel bleu. On proclame des découvertes et les gens ne sont pas heureux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais les suspensions sont hydrauliques, les matelas sont aérés. La vitesse est supersonique et les voyages organisés. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais
Petits ruisseaux font les grandes rivières, de Jeanne Moreau, proposition musicale de notre équipage. Ainsi se referme cet entretien, durant lequel nous avons aussi eu le plaisir d'écouter Imani interpréter « Les voleurs d'eau », chanson d'Henri Salvador à l'origine. Il est maintenant temps de retrouver Camille, venue nous faire part du décagenda de ce mois d'avril.
Salut camarades, le décagenda de ce mois d'avril 2023, c'est l'agenda ODECA qui commence mercredi 12 à 18h15. C'est les actrices des temps présents qui proposent un nouveau moment de réflexion autour du cycle Les communs, comment ça se travaille. Le vendredi 14 à 18h30, le CADTM organise une soirée de soutien aux prisonniers politiques au Maroc. Le samedi 15, de 10h à 17h, les actrices des temps présents organisent une nouvelle journée de discussion publique autour du manuel du pays dans un pays, lors de laquelle les fiches pays seront abordées. Le lundi 17 à 19h, c'est un débat organisé par la revue Politique qui s'invite au DECA face aux multiples crises, une violence nécessaire, donc un débat autour de la question de la désobéissance civile. Mardi 18 à 18h, le théâtre Action et voilà le travail, co-organisé par le CEPAGE et les jeunes FJTB. Le samedi 22 à partir de 14h, nous commémorons une journée de mémoire antifasciste, femmes en résistance, à l'appel de l'UPJB, du Medeber Teatro et de Poter al Popolo Bruxelles et du DECA. Lundi 24, de 9h à 16h, la CGS PALR nous convie à une rencontre avec Francine Boll ayant pour thème une histoire ouvrière du 1er mai. Et puis à 18h, nous avons le plaisir d'accueillir une séance d'écoute publique, l'Aérophone, épisode 3. Mardi 25 à 18h, c'est la table d'hôte organisée par le DECA. Et puis enfin, le jeudi 27 à 18h, la distro Lapinothèque pose sa table au DECA. Et puis n'oubliez pas que le DECA, c'est aussi des permanences du bar et de la boutique. Tous les lundis, mercredis et jeudis de 18h à 21h30, paiement uniquement en cash. Le DK ouvre également ses portes désormais tous les jeudis et les dimanches pour le D-quartier de 11h à 17h. Enfin, si vous voulez louer un espace ou co-organiser un événement au DK, vous pouvez écrire à dk@aadtp.be. Ou si vous voulez avoir plus d'infos sur les actions et réflexions des actrices des temps présents, vous pouvez écrire à info@aadtp.be. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire salut, à la prochaine.
À la prochaine et merci Camille. Au passage, une petite précision concernant la journée du 15 avril, précision que nous apporte Céline.
Donc on est en train d'écrire un manuel du pays dans le pays, qui sera composé de plusieurs fiches. Alors, il y a d'abord une rédaction de ces fiches, une rédaction, on réfléchit à ce qu'on a envie d'en dire de manière la plus pratique possible. Et on essaie de compléter ces fiches avec les questions qu'elles posent à certaines personnes. Et donc, on réunit des personnes qui vont questionner les fiches, qui vont dire ce qui les a interpellées, ce qui manque. On a déjà fait ça pour la fiche Bassin Versant et la prochaine rencontre a lieu le 15 avril et on discutera de deux autres fiches, celle sur le pays dans le pays et celle sur l'autogouvernement. Voilà, donc ce sera le 15 avril au DK.
C'est sur cette invitation à nous rejoindre que se clôture la décassette de ce mois d'avril. Rendez-vous le premier vendredi de mai à 19h sur les ondes de Radio Panique et ou sur nos différents réseaux plus ou moins sociaux pour une nouvelle émission de Belle d'ici là.